1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Radio Lab.
Radio Lab.
Radio Lab.
Radio Lab. Radio Lab.
Radio Lab.
Radio Lab.
La radio.
La radio du lycée
André Bouloche.
C'est bon là ?
Du lycée André.
La radio du lycée André Bouloche.
Radio du lycée André Bouloche.
Avec
la participation.
Avec la participation de
Nassina.
Et Louis.
Luca.
Mokhtar.
Binour.
Salif Junior.
En direct, en direct,
en direct de Radio Tribu.
Bonjour à tous et bienvenue dans la Tribu. Je suis aujourd'hui en compagnie de Binour, Eloïs, Luca, Mokhtar, Salif et Lassina. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Tout le monde va bien ?
Très bien.
Oui.
Alors aujourd'hui, une émission avec un gros programme, hein, puisque nous allons parler de tabac. Enfin, vous allez parler de tabac, de boxe, de musique, on est d'accord ?
Oui.
Oui. Peut-être avant, quand même, on va commencer par vous présenter. Qui êtes-vous ? Est-ce que déjà vous pourriez nous expliquer dans quel lycée vous êtes et quelle filière vous suivez ?
Bah, on est en CAP, on est au lycée André Bouloche et on est en plomberie.
Ok. Donc tout le monde la même chose, hein ? On est d'accord ?
Oui.
Oui.
Ok, eh bien écoutez messieurs, on a décidé pour cette émission de vous présenter de manière un peu différente. Vous avez réalisé ce qu'on appelle des cartes postales sonores et c'est comme ça qu'on va apprendre à vous découvrir. Et le premier qu'on va découvrir, c'est Binour. Alors il est où Binour ? Il est là, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que t'es prêt à t'écouter ?
Oui.
Oui, eh bien écoute, c'est parti.
Je vais vous emmener sur l'île de la Réunion, dans la ville de Saint-Denis, où il y a une magnifique cascade, son nom, la cascade Maniquet. À mes pieds, s'étalait une falaise de roche, d'où s'écoulait la rivière. De chaque côté, il y avait une multitude de fleurs jaunes. Devant moi, se trouvait une végétation luxuriante et verdoyante. Dans le fond, il y avait de gigantesques palmiers à noix de coco qui m'avaient l'air délicieuses. Mais ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est la façon que l'eau avait de chuter. Quand je me suis arrêté sur la falaise de roche, j'étais complet de bonheur. J'avais les yeux qui brillaient devant l'eau qui s'écoulait. Mes narines palpitaient en sentant le vent qui soufflait l'odeur des fleurs et de la végétation. Mes jambes s'agitaient. J'aime cet endroit car le bruit de l'eau me faisait penser à mon enfance. C'est un bruissement apaisant et réconfortant.
Merci Binour, écoute, comme ça au moins on a fait connaissance. Est-ce que tu sais qui passe après toi ? Avec qui on va faire connaissance, Binour ?
On va passer à lui.
Bonjour !
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va.
Bon, t'es prêt ? On peut lancer ta carte postale ?
Ouais, bah allez.
Tu nous emmènes où, toi ? Tu nous le dis avant ou pas ? Ou on découvre ?
Bah, on découvre.
Ok.
Je vais vous emmener sur une plage du Costa Rica, à Samara. À mes pieds s'étalait du sable doux et chaud. Sur le sol se trouvaient des coquillages, du bois flotté et des déchets de plastique. De chaque côté de la plage, il y avait des palmiers dans lesquels jouaient des petits singes marrons et noirs. À ma gauche se trouvait un petit village de pêcheurs. Ce village était habité par des familles. À ma droite s'étalaient, derrière les palmiers, des magasins pour les touristes. Devant moi, la mer à perte de vue. Elle était calme, transparente et très chaude. Mais ce qui a tout de suite attirer mon attention, c'est le soleil. Cet astre brûlant baissait sa garde devant l'océan Pacifique. Sa couleur rouge-orangée se reflétait sur l'étendue profonde et bleue. J'aime cet endroit car c'est un lieu calme et plein de joyeux souvenirs.
Merci Luca. On va dire bonjour à qui maintenant ?
À Luca.
Ah, merci Héloïse. Je me suis trompée. Ah oh là là, je suis désolée, vous m'en voulez pas ?
Non.
Non, ça va. Non, mais parce que si on commence déjà mal l'émission, ça va pas le faire. Bon, alors Luca, cette fois, c'est toi qui nous emmène en voyage. Est-ce que toi, tu veux nous le dire avant ou pareil, on découvre ?
Je vais vous emmener en Espagne.
En Espagne ? Eh bien, écoute, c'est parti.
Je vais vous emmener sur une plage de Saint-Sébastien, au nord de l'Espagne. Il y avait un grand mur qui séparait la plage et la route. Derrière la route se trouvaient les boutiques. La plage faisait comme une petite crique. On a marché sur toute la plage pour arriver aux boutiques. On est tombé sur plein de ruelles avec plein de petits magasins le long. Sur la plage, le sable était tout doux, blanc et chaud. La mer était toute claire avec de belles vagues. Les plagistes bronzaient et jouaient sur la plage. Mais ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est la clarté de la mer avec ses belles vagues. Son beau reflet sur l'eau et la petite crique qui protégeait les poissons et les coraux. J'aime cet endroit car il change de la France. Ils n'ont pas la même mentalité. Il y a beaucoup moins de pollution. Et surtout, ce qui me plaît, c'est de découvrir de nouvelles traditions, de nouvelles cultures et de nouveaux paysages.
Merci Luca, enfin c'est ce que j'étais en train de dire hors antenne, je sais pas si je vous remercie vraiment parce que là vous me donnez vraiment envie de partir, mais bon c'est pas grave, on va rester quand même. Luca, on dit bonjour à qui maintenant ?
On va dire bonjour à Mokhtar.
Bonjour Mokhtar.
Bonjour.
Alors toi, est-ce que tu veux nous dire à l'avance où tu nous emmènes ou tu nous laisses découvrir ?
Bah je laisse découvrir.
Ok.
Je vais vous emmener en Italie, à Bologne. Le forêt m'envoyait lorsque j'ai posé un peu sur la place des centres-villes, car c'était la première fois que je voyais les centres-villes d'une grande ville européenne. À mes pieds, c'était les bitons humides de la rue. Sur les sols, ça trouvait beaucoup de mégots, des cigarettes Marlboro. De chaque côté, il y avait des bâtiments d'habitation, 17 étages avec des balcons. À ma gauche, il y avait un grand parking où beaucoup de voitures sont garées. Et à ma droite, son chimie, un bureau de tabac, une boulangerie, un bar, une épicerie et un coiffeur. Devant moi, ça trouvait une belle église où sont accrochées des statues, au-dessus de chaque porte d'entrée. Mais ce qui tout de suite a attiré mon attention, c'est l'une des statues. Elle était majestueuse, grandue et édifiée vers les visiteurs. Elle représente Jésus sur sa croix. Cette statue est toujours restée dans mémoire car elle m'interrogeait. J'aime cet endroit car c'est une ville jolie et calme.
Eh bien, merci pour cette découverte. Alors toi, Mokhtar, maintenant, tu vas nous présenter qui ?
Bah, Salif.
Bonjour Salif.
Bonjour.
Ah bah je me suis trompée de micro, bravo. Fallait bien que ça commence. De toute façon, je vous avais dit, s'il y a une erreur dans cette émission, ce sera forcément moi. Salif, toi, tu nous emmènes où ? Est-ce que tu veux bien nous le dire à l'avance ou pas ?
Bien sûr, oui. C'est en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, très bien. Eh bah écoute, c'est parti, direction la Côte d'Ivoire en ta compagnie alors.
Ouais.
Ah.
Je veux vous amener en Côte d'Ivoire, dans la ville de Daloa, sur l'un des monuments connus. À mon pied, c'était le goudron chauffé par les nombreux passages des voitures et le soleil. Sur le sol se trouve un passage piéton peint en blanc pour aller au centre du rond-point. De chaque côté, il y avait des immeubles. En bas, il y avait des magasins de vêtements. À ma gauche se trouve le marché de téléphone. Et à ma droite se trouve la compagnie ivoirienne d'électricité. Devant moi, il y avait un espace vert dirigé où se trônait la statue. Mais ce qui a tout de suite attiré mon attention, c'est la statue de l'antilope au centre du rond-point. À côté de la statue, je suis heureux car je suis avec mes amis. Elle est toujours entourée de plein de gens. C'est à chaque fois un moment joyeux de voir cette statue. J'aime cet endroit car il y a tout le temps du monde.
Eh bien, encore une fois, merci Salif. Et alors, il n'en reste plus qu'un. À qui va-t-on dire bonjour maintenant ?
À Lassina, on va dire bonjour.
On va dire bonjour. Bonjour Lassina.
Bonjour.
Ça va bien ?
Oui, ça va et vous ?
Oui, et pas trop intimidant d'être le dernier ?
Non.
Non. Et alors toi, est-ce que tu veux nous dire avant où tu nous emmènes ou tu préfères nous laisser découvrir ?
Ben, on va rester dans le même endroit. On va rester dans le même endroit que Salif.
Ok, très bien. Donc, la Côte d'Ivoire, le retour en fait. Yes. C'est ça, c'est parti.
Je vais vous emmener en Côte d'Ivoire à la basilique Félix Toufou-Eboigny de Yamoussoukro. Lorsque je suis rentré dans la basilique, mes yeux se sont écarquillés avec les illuminations. Sur le sol se trouvait un très beau carrelage uni sur lequel je marchais. De chaque côté, il y avait des vitres avec des graffitis chrétiennes qui brillaient grâce aux rayons du soleil. À ma gauche comme à ma droite se trouvaient des milliers de bancs d'église tournés vers l'autel. Au centre de la pièce trônait une statue de Jésus-Christ. Ce qui a attiré plus mon attention, c'est la statue illuminée de Jésus. Quand je l'ai aperçue au milieu, mes yeux s'écarquillaient car c'était tellement extraordinaire. Devant moi se trouvait cette gigantesque statue taillée en pierre représentant Jésus. Elle brillait de mille feux grâce aux illuminations autour d'elle. C'était vraiment très beau. J'avais l'impression qu'elle était inanimée. Je restais stupéfait devant cette grandeur. C'était aussi rayonnant qu'un coucher de soleil sur une plage des îles. J'aime cet endroit car c'est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens. C'est un endroit sacré pour eux et un très beau patrimoine pour mon pays.
Eh bien, merci Mokhtar, Luca, Lassina, Héloïse, Salif et Binour hein, de nous avoir fait partager ces cartes postales, ces découvertes. Maintenant qu'on vous connaît mieux, eh bien, écoutez, c'est parti hein, pour cette émission. On avait parlé tout à l'heure hein, de tabac. Eh bien, écoutez, c'est dans un instant dans la tribu.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ok, ok. Radio Lab. La radio du lycée André Bouloche.
Oh, oh. C'est bon là ?
Du lycée André Bouloche.
En direct de Radio Tribu.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Mokhtar et moi, on a voulu s'intéresser à une question importante. Le tabagisme chez les 15-25 ans. C'est un problème qui, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, persiste à menacer la santé des jeunes générations.
Et qui s'en voulant de ces problèmes ?
Selon la Comité nationale du tabagisme, CNCT, chaque année le tabac est à l'origine de 8 millions de décès prématurés dans le monde. En effet, ce sont plus de 75 000 fumeurs qui décèdent d'une maladie liée au tabagisme.
Et en ce qui concerne la vente des tabacs ?
La vente de tabac est interdite aux mineurs de moins de 18 ans. Cependant, les adolescents n'ont aucune difficulté à acheter leurs cigarettes. Selon la Fondation de recherche médicale, près de 6 adolescents sur 10 ont déjà expérimenté le tabac, soit 59% et 17% fument quotidiennement. Pour rendre compte de cette réalité, je suis allé à la rencontre de mes camarades pour tenter de comprendre leur consommation de tabac. Beaucoup ont partagé leur expérience et leurs raisons pour lesquelles ils ont commencé à fumer. Certains évoquent le stress lié aux études, d'autres la pression sociale. Un tableau de complexe se dessine. Mais une chose est claire, le tabac est un impact significatif sur leur vie.
Place aux jeunes délaissés quand on a été interrogé par moi.
Bonjour, j'ai une question sur les cigarettes. Quand t'as commencé à fumer ?
J'avais 13 ans, j'allais au bus scolaire. Et c'est une amie de ma sœur qui m'a proposé. C'était stylé à l'époque.
28 ans. J'ai un doute si c'était la première, mais une des premières, ouais. T'aurais pas à le dire, hein, dans les buissons au collège.
J'avais 11 ans, en fait. Donc, dans la prévention aujourd'hui, ça ne se ferait plus, bien sûr. Puisqu'à cette époque, on fumait dans les voitures, les grand-mères nous donnaient les mégots à fumer, voilà. Donc voilà, il y a en effet quelques années.
C'était, je crois, au lycée ?
Quand j'étais en 5e.
Depuis à peu près cet été. C'est un ami à moi qui m'en a proposé une et j'ai fumé. C'est de la détente et du partage la plupart du temps.
Depuis 3 ans. À l'époque, je trouvais ça stylé. Donc du coup, j'ai commencé à fumer. Sauf que c'est pas stylé parce que je peux plus courir pendant 100 mètres. Et que c'est compliqué.
Depuis 2-3 ans, j'ai commencé à fumer la CE. Puis après, c'est passé à la clope. Et après, c'était régulier.
Pourquoi tu fumes ?
Je sais pas. Je suis très anxieuse, du coup, ça me détend. Voilà, le stress et tout ça, c'est... Bon.
Et est-ce que t'as déjà pensé arrêter ?
Non, pas du tout.
Bien sûr, et j'ai déjà essayé plusieurs fois et ça a marché. Suite à une semaine très compliquée au travail, je me suis laissée tenter. Et puis maintenant, j'aime bien le côté social. Ça permet de prendre des vraies pauses.
Pendant ma grossesse, ouais. Et pas depuis. Mais c'est en cours.
J'ai déjà arrêté de fumer une fois. Voilà. Une fois, j'ai tenu 7 ans. Donc c'était très très bien en plus. J'étais libre, libre de la cigarette. Ça, c'est vrai. Très difficile, mais bon, quand on veut, on peut. Hein, c'est ce qu'on dit. Donc c'était très très bien de vivre sans cigarette, en fait. Comment expliquer cette emprise constamment de se dire, est-ce qu'il me reste des cigarettes ? Il faut que j'aille en fumer. Une, se séparer des moments qu'on peut avoir, par exemple, à la maison avec les amis, les enfants, etc. Donc ça, ça a été une vraie, vraie, vraie liberté, cet arrêt de tabac, en effet.
Je me suis mis à fumer la cigarette électronique, et puis je la fume toujours, et du coup, je fume plus de cigarettes. Ce qu'on dit, c'est moins dangereux, et t'as pas tous les aspects dangereux, et après, tu peux arrêter la nicotine, si tu veux, à un moment, pour plus être addict.
Ça fait un mois, j'ai arrêté. Non, juste du CBD.
Ouais, plusieurs fois, 5 fois. Mais ça n'a pas marché. Mais voilà. Il faut arrêter, hein, vraiment, c'est... Ah, ok.
Merci, parce que moi, j'ai pas envie de fumer, maintenant.
Et quels sont les risques et les conséquences des tabagismes chez les jeunes ?
Le tabagisme chez les jeunes n'est plus qu'une simple habitude. C'est un choix qui peut entraîner des conséquences graves, des problèmes de santé à long terme, tels que les maladies pulmonaires et cardiovasculaires, menacent leur bien-être. Il est crucial de comprendre les risques pour motiver un changement positif.
Est-ce qu'il y a des solutions ?
Eh bien, pour nous aider à répondre à cette question, nous allons accueillir maintenant... Madame Laurence Biotto et Monsieur Philippe Moine. Bonjour, pourriez-vous vous présenter ?
Bonjour, donc moi je suis Laurence Biotto, je suis médecin au centre d'examen de santé de la CPAM et j'ai beaucoup travaillé en prévention auprès des jeunes et des adolescents auparavant aussi. Et là on fait beaucoup de bilans de santé de prévention aussi, aussi axés adultes et jeunes.
Bonjour, moi je suis donc Philippe Moine, je suis médecin généraliste. Alors j'ai la particularité d'avoir fait une formation pour aider les personnes à arrêter de fumer. Je suis ce qu'on appelle un médecin tabacologue. Et depuis maintenant à peu près 3 ans, j'aide les personnes qui ont envie de les accompagner vers un arrêt, une diminution de leur tabagisme. Voilà, donc je suis médecin généraliste.
D'accord, merci.
Merci.
Et est-ce que le micro-trottoir vous a fait réagir ?
Alors je prends la parole, Laurence, tu m'arrêtes quand tu veux. Donc oui, c'est très intéressant puisque ça éclaire très bien le problème du tabagisme. On a parlé de notion de liberté, de dépendance, d'addiction. On a parlé de la e-cigarette. On a parlé de beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé que le micro-trottoir était très intéressant et très éclaire très bien, met en introduction très bien le sujet du tabac chez les jeunes.
D'accord, merci.
En général, à quel âge les jeunes commencent à fumer ?
Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Hein. J'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt. On en voit pas mal qui commencent, même dès l'âge de 11-12 ans, ça peut arriver. Et on sait que plus on commence tôt, plus le risque de dépendance est important.
Oui, on reviendra sur le terme de dépendance, puisque c'est un terme qui peut être un petit peu difficile à comprendre. Mais il y a un certain nombre de facteurs qui vont faire qu'on va fumer plus ou moins tôt. Le facteur principal, donc vous ne pouvez rien, c'est le facteur familial. Si votre père et votre mère fument, que vos frères et vos sœurs fument, probablement vous aurez tendance, ou pas, mais tendance à commencer à fumer un peu plus tôt que la moyenne des Français et des Françaises.
D'accord. Et pourquoi les jeunes commencent à fumer ?
Bah, c'est toujours difficile de répondre à cette question. Je pense que le tabac est d'abord quelque chose de normalisé dans notre pays, avec des hauts et des bas, mais c'est normalisé. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, moi j'ai une école maternelle à 20 mètres de chez moi, et il y a beaucoup d'adultes qui, en attendant la sortie de leurs enfants, fument des cigarettes. Donc, ça paraît pas dangereux a priori de fumer, puisque dès leur plus jeune âge, les enfants voient des adultes qui sont des modèles fumer. Donc, il y a la normalisation du tabac. Après, il y a plein d'autres facteurs hein, qui font qu'on se met à fumer. C'est aussi pour prendre de la contenance, pour avoir un peu plus d'assurance. Il y a tout ce qui est lié à des moments de convivialité, de fête. C'est-à-dire qu'on fume parce que c'est un moment où on est bien et le tabac, on a l'impression, vient compléter cette impression de bien-être, de fête. Alors que bien évidemment, on va vous l'expliquer, le tabac a des conséquences sur la santé qui sont quand même tout à fait délétères.
Okay.
Pourquoi c'est difficile d'arrêter de fumer ?
Moi, je vais te laisser parler, alors, Philippe.
C'est difficile d'arrêter, là. Je vais essayer d'être simple. En fait, très vite, le tabac, selon les personnes, puisqu'on n'est pas tous égaux, on va développer ce qu'on appelle une dépendance. Une dépendance, alors là, je reviens au micro-trottoir, on a dit quand on veut, on peut. Pour le tabac, c'est totalement faux. Une dépendance, c'est-à-dire que quand on veut, on ne peut pas toujours, puisque on peut avoir une tendance à la dépendance, à l'addiction. Et on n'est pas tous égaux pour des raisons diverses, familiales, héréditaires, biologiques, etc. Et donc, il faut, en fait, pour arrêter de fumer, une certaine motivation. C'est le point de départ. C'est toujours difficile d'arrêter de fumer si il n'y a pas un petit peu de motivation. Cette motivation, avec le médecin ou l'infirmière, ou en tout cas le professionnel de santé tabacologue, on va essayer de travailler dessus et essayer de la renforcer. Et il y a deux types de dépendance, pour répondre donc à cette question. Il y a la dépendance qu'on appelle nicotinique, qui va se développer très vite en fumant très jeune, très beaucoup et régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, en fumant, la nicotine qui est située dans la cigarette va venir stimuler une partie de votre cerveau, développer des récepteurs à nicotine. Et en fait, quand vous êtes en manque de nicotine, eh bien, vous ne vous sentez pas bien. Il y a un mal-être, le fameux mal-être, celui qui se sent pas bien, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Donc, c'est en fumant qu'il va... En fumant, quand on tire sur une cigarette, il faut 7 secondes. C'est un peu un shoot de nicotine. Il va calmer ce manque. Donc, tout de suite, il a une impression de bien-être. Vous voyez ? Donc ça, c'est la dépendance nicotinique. Je sais pas si je suis clair. C'est la dépendance un peu chimique. Et puis après, vous avez ce qui est très bien décrit dans le micro-trottoir, la dépendance qu'on appelle comportementale et psychologique. C'est-à-dire qu'on va associer au tabac un certain nombre de choses telles que le plaisir, le bien-être, la fête, la convivialité. Ça peut être le café du matin, mais ça peut être l'apéro du vendredi soir avec les amis. pour ça que vous avez des gens, c'est toujours étonnant, qui ne fument pas du lundi au jeudi, des jeunes, hein, souvent, des gens qui travaillent, qui vous disent, bah, moi, je fume pas du lundi au jeudi, par contre, le vendredi, je commence à fumer parce que, bah, c'est le week-end qui arrive. Donc, on associe le tabac à des moments de bien-être, ce qui fait que quand on fume, bah, quelque part, alors qu'on n'a même pas commencé sa cigarette, quelque part, on sait que c'est quelque chose qui va nous apporter une sorte de bien-être. Ce qui est bien sûr, là aussi, une contre-vérité, mais voilà, ce sont des paroles. Voilà, donc dépendance nicotinique, dépendance comportementale et psychologique, elles sont souvent très intriquées. Et donc, le médecin ou l'infirmière, le professionnel de santé tabacologue va aider à mieux comprendre ce phénomène pour essayer de lutter contre ces phénomènes. Mais lutter contre quelque chose qui donne une impression de plaisir, c'est plutôt compliqué. Voilà, donc la dépendance, les addictions qui sont la source, le socle de cette... C'est pour ça que c'est si difficile d'arrêter de fumer.
Merci. Et comment essayer d'arrêter de fumer ?
Voilà, encore, on a des solutions, Philippe va vous
expliquer. Voilà, on a des solutions, je crois que... Merci Laurence, donc désolé, je parle beaucoup, mais oui, bien sûr qu'il y a des solutions. Donc la première chose, c'est d'avoir des campagnes de santé publique régulièrement autour du tabac. C'est ce qui se fait, ça se fait sur TikTok, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio. Bon, là, sur les jeunes de 15-25 ans ou 15-30 ans, c'est plutôt les réseaux sociaux. Moi, je les connais pas très bien, mais j'imagine que la santé publique, c'est en fait un pays qui décide de faire en sorte que sa population se porte bien et ne tombe pas malade trop tôt et voilà, n'ait pas trop de symptômes de maladies. Donc il y a des campagnes de santé publique sur les réseaux sociaux, je pense, pour faire réfléchir les jeunes qui fument à comment faire pour arrêter de fumer. Donc la question, c'était comment faire pour arrêter de fumer. Ben, c'est d'avoir envie un petit peu, d'avoir un peu de motivation, de rencontrer son pédiatre, son médecin traitant, ou ça peut être une gynécologue, une sage-femme, son dentiste, son kiné, un professionnel de santé, celui qui s'intéresse à votre santé, pour réfléchir à ça. On peut en parler avec ses amis, sa famille, ses parents, et se faire aider. Et accompagné. Et après, vous avez donc des méthodes validées. Alors, je fais une petite parenthèse. Méthodes validées, c'est-à-dire que nous sommes des scientifiques. Donc, malgré notre... Voilà, on a un côté scientifique et on va utiliser des méthodes qui ont été prouvées par des études qui ont été faites soit en France, soit en Europe, soit dans le monde entier, comme étant, si vous voulez, montrant qu'il y avait des résultats probants. Il y a des méthodes qui sont moins prouvées, mais qui sont quelquefois efficaces pour telle ou telle personne. Donc les deux grandes méthodes pour arrêter de fumer, c'est, première méthode, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales et cognitives, donc un mot compliqué. En fait, ce sont une méthode de discussion, de psychologie, pour aider la personne à réfléchir sur sa façon comportement et sa façon de fumer. On appelle ça les TCC, thérapie comportementale et cognitive. Ça, c'est validé dans plein de pays du monde. Et puis, il y a les substituts nicotiniques, les fameux patchs, les gommes, tous les produits que vous avez dû voir, qui apportent de la nicotine au niveau de votre cerveau. Enfin, d'abord en passant par la peau ou la bouche, ensuite le sang et ensuite le cerveau. Et qui vont justement calmer ce manque de nicotine si vous ne fumez plus. Donc, quand vous décidez d'arrêter de fumer, le médecin va essayer d'évaluer votre dépendance à la nicotine. Et s'il considère qu'il y a clairement une dépendance à la nicotine, il va vous proposer d'utiliser ce qu'on appelle des traitements substitutifs à la nicotine, le patch étant le plus connu, mais il y a aussi des gommes, et des bonbons à la menthe, etc. Voilà, donc substitution nicotinique, accompagnement psychologique dans un esprit surtout d'écoute, de bienveillance, d'absence de jugement. Alors ça, j'insiste beaucoup, hein. Moi, je suis pas tout jeune, donc j'ai connu où les professionnels de santé disaient c'est pas bien de fumer. On sait que ça ne marche pas. On dit plutôt raconte-moi ton tabac, parle-moi de ton tabac. On raconte la vie un petit peu. On parle avec la personne donc jeune, et on lui demande un petit peu de savoir où elle en est et qu'est-ce que ça représente pour lui de fumer. Alors, je parle du tabac, mais bien sûr, souvent on va être amené à parler du cannabis. Et puis des autres produits, hein, il n'y a pas de tabou, hein. Je pense que les professionnels de santé n'ont aucun tabou, donc tabac, cannabis ou autres produits, on est là dans une posture de ou alcool, et on est dans une posture surtout de bienveillance, d'écoute, d'accompagnement. On a le temps, on prend le temps, et puis on sait très bien qu'on peut avoir des moments difficiles dans sa vie, de pas être prêt par moment ou d'être plus ou moins prêt par d'autres. Donc on va accompagner la personne en face de nous alors l'objectif, c'est une diminution, puis bien sûr un arrêt définitif pour protéger la santé.
Mais on sait que ça marche mieux quand on est accompagné, de toute façon.
Merci. Quels sont les impacts du tabac sur la santé ?
Alors, les impacts du tabac sur la santé sont assez simples. Il y en a trois grands. Alors, je dirais trois thématiques. La première thématique, celle qui fait peur. En tout cas, si vous avez été autour de vous touché par ça, par un de vos proches plus âgés, connaissez, c'est le cancer. Le tabac est clairement un co-carcinogène, c'est-à-dire que le fait de fumer vous expose, surtout si vous fumez donc beaucoup et longtemps, vous expose beaucoup plus à des cancers. Le cancer le plus connu, c'est le cancer du poumon. C'est un cancer qui touche malheureusement des gens qui ne sont pas très âgés, hein, qui vont se retrouver avec des cancers assez jeunes, dès l'âge de 45-50 ans. C'est une maladie très grave, avec des traitements très lourds, hein, très invalidants. Donc les cancer du poumon, mais cancer de la gorge, cancer de la vessie, ça augmente le risque de cancer du sein, le cancer du col de l'utérus pour les jeunes femmes. Faut le dire, beaucoup de cancers, c'est un co-carcinogène. Deuxième thématique, c'est les maladies respiratoires. Donc vous connaissez peut-être l'asthme. Je ne sais pas si vous avez autour de vous des personnes qui prennent de la ventoline. Eh bien, le tabac, on développe avec le temps ce qu'on appelle la bronchite chronique, ce qu'on appelle la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce sont des gens qui arrivent au moment de la retraite, vous savez, ils ont envie de profiter de leur retraite. Et là, ils vont se retrouver très essoufflés, c'est-à-dire qu'ils veulent aller jouer au foot avec leurs petits-enfants, mais ils ne peuvent pas. Puisque au bout de 20 mètres, ils sont très essoufflés et on est très gêné pour les soulager. Donc, il existe des médicaments, mais pas toujours efficaces. Et ça peut même être quelquefois se poser la question d'une greffe au niveau de leurs poumons. Donc, une maladie très très invalidante, handicapante. Hein. Et puis, la troisième thématique dans les maladies liées au tabac, c'est les maladies, ce qu'on appelle cardiovasculaires. C'est des maladies qui touchent plutôt la tranche d'âge, on va dire 45-50 ans. 90 ans, c'est une maladie qui donne des infarctus, c'est des artères qui se bouchent au niveau du cœur et qui sont quelquefois mortelles. C'est des gens qui se portent bien à 45 ans et qui du jour au lendemain, en quelques minutes, vont décéder à cause du tabac. Les infarctus touchent des gens jeunes, les infarctus liés au tabac, c'est plutôt une population qui soit jeune. Donc les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, vous savez, les gens qui perdent l'usage de la parole, une partie de leur corps. Donc ça, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc vous avez eu trois thématiques liées, trois impacts du tabac sur trois thématiques.
Autre chose, on sait aussi que par rapport à l'acné, le tabac peut aggraver l'acné. Et puis, il y a aussi un impact sur les dents aussi et sur les gencives.
Oui, et je rajouterais, oui, ça y est, j'y pense, oui, tu veux très bien, on a parlé des dents, parce que c'est vrai, quelquefois, ça aggrave vraiment les problèmes dentaires des personnes qui sont jeunes. Et puis, sur la sexualité, puisque le tabac aussi, chez certains, va avoir un impact avec ce qu'on appelle une dysfonction érectile, chez les garçons, c'est quand même, voilà, il faut le dire. Donc, des problèmes d'érection, des problèmes, voilà, on a une sexualité qui est pas toujours au top. Et le simple fait, quelquefois, de réduire ou d'arrêter son tabagisme, va probablement améliorer cette fonction érectile. Donc, ça, c'est toujours intéressant de le dire, on n'y pense pas. J'ai eu un déclic et donc voilà, je vous en parle.
Merci. D'accord, merci. Et quels sont les impacts qui a été le plus touché par le tabagisme?
Alors, j'ai pas bien saisi la question.
Par rapport à l'âge.
Alors, touché par le tabagisme, je sais peut-être que Laurence va m'aider à répondre, mais les études montrent que les campagnes qui sont nombreuses, les campagnes de santé publique, celles que fait le gouvernement ou le ministère de la Santé ou tous les organismes qui s'occupent de la santé des jeunes et des moins jeunes, montrent que les messages de santé publique pour aller vers l'arrêt du tabac touchent plus, si vous voulez, les populations, on va dire, c'est terrible hein, ce que je vais dire, mais plus les gens qui ont fait des études et touchent moins les personnes qui viennent, si vous voulez, qui ont fait moins d'études. On ne sait pas trop bien pourquoi, peut-être que Laurence pourra... Mais c'est vrai que ce sont les chiffres. Et on a du mal à quelquefois toucher des personnes qui sont plus dans la précarité, dans des difficultés sociales, des difficultés de travail, des difficultés en général, de logement, etc. Comme si vous voulez, moi j'ai souvent entendu alors, dans mon cabinet des femmes ou des hommes qui me disaient de toute façon il me reste plus que ça, le tabac. Donc c'est vrai que quand on est médecin et qu'on a une personne en face de soi qui a quel que soit son âge et qui me dit moi de toute façon le seul plaisir que j'ai dans la vie maintenant c'est de fumer, c'est compliqué pour nous d'aller vers l'arrêt du tabac puisqu'on va vers quelque chose qui est leur seul peut-être plaisir, en tout cas c'est l'impression qu'ils ont. Et donc c'est compliqué, mais ceux qui sont le plus touchés par le tabac, c'est je sais pas comment répondre, mais ceux en tout cas qui répondent le moins bien au message de santé publique pour l'arrêt du tabac, c'est malheureusement les populations les plus précaires, les plus en difficulté. Et il semblerait que ça, c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de pays du monde. Moi, je pense à la Grande-Bretagne, j'avais lu une étude il y a quelques années où les populations les plus pauvres, les plus en difficulté, avaient plus de mal à arrêter de fumer. D'où des campagnes qu'il faut vraiment une réflexion globale sur la prise en charge globale. C'est-à-dire que Il faut aider ces personnes à aller vers l'arrêt du tabac, mais il faut aussi les aider à trouver un emploi, à se sentir bien, à avoir un logement correct. C'est-à-dire que là, on inscrit le tabac, enfin, l'arrêt du tabac dans une vraie politique sociale globale. Voilà. Donc, faut savoir qu'en face, je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en parler, mais vous avez une industrie du tabac qui est extrêmement puissante, une industrie marketing, qui eux n'ont rien à foutre de votre santé, ça je faut le dire. Eux, ce qui leur importe, c'est de gagner beaucoup d'argent, mais beaucoup. Ils en gagnent beaucoup, beaucoup. Vous pouvez pas imaginer. Ça fait 50 ans que les grandes compagnies qui fabriquent des cigarettes sont, la plupart des cadres supérieurs gagnent des sommes. C'est pas Mbappé, mais pas loin. Hein. Non, c'est que j'azère, mais je crois qu'il faut, quand vous fumez, vous faites quelque chose qui est malheureusement qui enrichit des gens qui sont déjà très riches. Et dès que les marchés du tabac sont moins bons dans une région du monde, ils vont dans des régions, sur d'autres régions du monde, ils vont vendre leurs cigarettes encore moins chères. Moi, je suis allé en Asie plusieurs fois et voilà, ils vont rendre addicts des populations très jeunes. Hein, les paquets de cigarettes sont très peu. Donc, en Indonésie, etc., dans tous ces pays-là. Et vous avez des. Et une fois que vous êtes devenu dépendant, c'est très difficile d'arrêter. Sauf que ces gens jeunes qui ont fumé de jeunes vont avoir beaucoup de mal à arrêter et vont mourir jeunes. Donc, vous voyez, c'est des politiques quand même de marketing de l'industrie du tabac qui sont terribles.
Est-ce que l'on peut considérer les tabacs comme une drogue?
Je pense qu'on peut dire oui.
À votre avis?
Bah oui.
Ouais, on est tous d'accord. Parce que bon, là, la réponse, on peut la partager. Mais après, c'est une sorte de connotation. Mais c'est une drogue. C'est une drogue en vente libre. Mais c'est une drogue. Et je trouve toujours intéressant, puisqu'on parle souvent du cannabis avec tout le côté politique de la chose. Hein, eh bien, le tabac est clairement une drogue, oui. Je pense qu'on est tous unanimement d'accord.
D'accord. Merci. Et pourquoi avoir conçu un produit aussi toxique et dangereux pour la santé?
Je crois que Philippe a déjà répondu quand il a parlé de l'industrie du tabac.
Oui. Alors en fait, il y a aussi, quand on fait un diplôme de tabacologie, je termine là-dessus, il y a toute une histoire. Le tabac, c'est une plante, oui, qui est cultivée depuis de très très longues dates et qui est venue en France, entre autres, alors je parle de la France, par monsieur Nico, je sais plus comment il s'appelait, mais je sais pas si on s'appelle de nicotine, mais c'était très à la mode de fumer au 18e siècle, au 19e siècle. Il faut savoir que si un jour vous avez le temps, regardez l'histoire du tabagisme en France, c'est tout à fait intéressant, et il y a des périodes comme ça. Donc la question que vous posiez, c'était, le tabac, c'était naturel, hein, il y a toujours eu des feuilles de tabac, et il y a des agriculteurs qui vivaient grâce à ça. Et c'est après, bien sûr, tous les produits qu'on met dans la cigarette qui sont, voilà, tout ce qui va avec, qui fait que vous devenez dépendant et que vous tombez malade.
D'accord, merci.
Quelles sont les maladies les plus fréquentes que c'est par les tabacs?
Alors, je cherche.
Alors, on a déjà répondu, ouais, je pense, vas-y, hein, ouais, apparemment. Comme tu disais, le cancer, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes pulmonaires.
Ce qu'il faut tout de suite vous dire, alors je vais être prudent dans ce que je vais dire, mais les maladies liées au tabac sont globalement des maladies qui apparaissent avec le temps. C'est-à-dire que si vous commencez à fumer à 16 ans ou 18 ans, vous ne tomberez pas malade à 22 ans. Vous allez plutôt, ça peut aggraver un asthme par exemple, mais ce sont des maladies qui vont vraiment commencer à s'installer avec le temps. C'est-à-dire que c'est plus on fume longtemps et plus on va avoir des maladies. Et le deuxième facteur, c'est plus on fume beaucoup, plus on va avoir des maladies. Mais sur l'infarctus du myocarde des gens jeunes, ce sont des gens qui fument que depuis une vingtaine d'années, ce qui est pas énorme, hein, de l'âge de 28 ans, ben de 20 ans à 40 ans, et qui vont faire un infarctus pour certains mortel, alors qu'il y a que 20 ans de tabagisme. Le piège qu'il faut tout de suite dire, c'est que plus vous fumez, plus vous allez devenir dépendant et plus ça va être difficile d'arrêter. C'est pour ça que, vous voyez, on est aujourd'hui ici pour en parler, c'est de vous faire réfléchir, tous vos amis, vos proches, vos parents, vos amis, enfin, votre famille, à pourquoi je m'arrêterai pas. Et voilà, on verra ensemble peut-être dans les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce qui peut motiver à une diminution, un arrêt du tabac.
D'accord, merci beaucoup. Et quels sont les produits principaux présents dans la cigarette?
Alors, pour simplifier, la nicotine, la fameuse nicotine, qui n'est pas, alors attention, je vais vous surprendre, mais la nicotine n'est pas dangereuse pour la santé. Elle n'est pas dangereuse pour la santé. La nicotine, c'est elle qui va faire que vous devenez dépendant. Donc, elle est dangereuse quelque part parce que vous devenez dépendant, mais la nicotine, supposons, je vais vous donner un exemple, que vous preniez de la nicotine pendant des années, probablement vous ne tomberez pas malade. Vous serez juste dépendant, vous allez entretenir votre dépendance à la nicotine. Donc la nicotine n'est pas dangereuse. Et puis vous avez deux autres choses importantes. Vous avez tous les goudrons, les benzènes, les produits chimiques. On dit qu'il y en a entre 4000 et 8000 dans les cigarettes industrielles. Même dans le tabac à rouler, il y en a beaucoup. Donc ces produits chimiques, c'est eux qui favorisent, si vous voulez, toutes les maladies dont on a parlé, respiratoires, cardiovasculaires et cancéreuses. Et puis vous avez quelque chose qui est peu connu aussi, c'est ce qu'on appelle la combustion. Quand vous, parce qu'on va parler de la vapoteuse, la combustion, c'est quand vous tirez sur une cigarette, il y a une combustion qui se fait. Et cette combustion, elle a un rôle très toxique sur le système cardiovasculaire. Et c'est elle qui favorise les fameuses maladies cardiaques, l'infarctus, qui touche quelquefois des adultes assez jeunes. Voilà, la combustion, les produits chimiques, benzène, goudron, etc., qui favorisent plutôt les cancers, pour simplifier. Et puis la nicotine qui, elle, favorise la dépendance.
D'accord. Pourquoi les gens savent que les cigarettes est un produit dangereux et qu'ils continuent à fumer quand même?
Ah, ça c'est très bonne question. Toutes vos questions sont parfaites. Ben, c'est ce qu'on appelle la dépendance. Vous savez, c'est vraiment la fameuse définition de la dépendance et de l'addiction. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bon pour la santé, mais parce qu'on le sait, on l'a lu, on nous le répète, votre médecin vous l'a dit, le pédiatre l'a dit, enfin, bref, tout le monde vous le dit autour de vous, mais c'est plus fort que soi, c'est le propre, vraiment, ce qu'on appelle de la dépendance ou de l'addiction, pour simplifier, et malgré que on sait que c'est pas bon, à la fois on l'a associé, comme je vous disais, c'est la dépendance psychologique et comportementale, on l'a associé à des moments qu'on aime bien, le café, la bière, le vin blanc, les amis, les retrouvailles, la détente, les copains, donc on l'a associé à ça, donc hop, automatiquement, sans réfléchir, notre comportement va être d'allumer une cigarette dans des moments qui où on réfléchit même pas, on sait que ce moment-là déclenche la cigarette, et puis il y a la fameuse dépendance à la nicotine, c'est que si vous fumez depuis quelques années, 3-4 ans, et que vous fumez beaucoup, très vite, si vous ne fumez pas, vous allez vous sentir mal, vous aurez une sensation de malaise avec des tremblements, des transpirations, une sensation de mal-être, ce qui fait que la seule réponse à ce mal-être, ça sera de fumer une cigarette. Voilà. Donc c'est ça qui entretient votre tabagisme. Et vous savez que c'est pas bon pour la santé, mais en France, vous avez dit les chiffres, on est autour de 15 millions de fumeurs, ce qui est beaucoup quand même, qui sont... Voilà, c'est quand même à souligner. Et vous dites que dans ces 15 millions de fumeurs, il y a quasiment 15 millions de gens qui savent que c'est pas bon, mais qui fument quand même. Donc, rien d'extraordinaire quelque part.
D'accord, merci. Et comment peut-on inciter les jeunes à ne pas fumer?
Ça, je pense qu'on pourrait vous retourner à tous la question, parce que je pense que l'intérêt, c'est de partager nos connaissances, d'interagir entre nous. Mais je pense que vous avez peut-être vous-même la réponse à cette question. Bien sûr, vous n'êtes pas professionnel de santé, mais vous êtes des citoyens. Vous avez autour de vous des amis, de la famille, des voisins qui fument sûrement. Peut-être que vous avez des idées, et toutes les idées sont bonnes à prendre. Moi, je suis vraiment là-dedans. Ben, moi et la plupart des professionnels de santé, on est dans l'idée de réfléchir. Globalement, les campagnes, ce qu'on appelle de santé publique, ne fonctionnent pas très très bien chez les gens jeunes, puisqu'il y a un goût, je pense que Laurence pourra peut-être nous en parler, elle était médecin scolaire, des adolescents, en tout cas pour le RIS, pour le, je sais plus quel terme employer, mais de faire du, voilà, d'aller en dehors des normes, de faire des choses un peu, voilà, et je pense que Laurence, tu veux peut-être rebondir, réagir sur pourquoi les jeunes, c'était...
Oui, puis il y a toujours envie de tester un petit peu l'interdit aussi, voilà. Aller, contre la norme.
Là, c'est un peu une forme de, c'est une forme de rébellion contre, si vos parents vous ont dit qu'il fallait pas fumer, que c'était pas bon, quelque part, on est tous passés par là, puisqu'on nous a dit que c'était pas bon, justement, je vais fumer, vous voyez, c'est une forme d'aller contre la norme.
D'accord. Et quelle est la différence entre une cigarette classique et une cigarette électronique?
Alors, dans la cigarette électronique, il n'y a pas de combustion.
D'accord.
Oui, voilà. Donc, dans la cigarette, ce qu'on appelle la vapoteuse, dans la cigarette électronique, c'est de la vapeur d'eau. Donc, il n'y a pas de combustion. Donc, il n'y a pas, du coup, le risque cardiovasculaire qui est là. Les études globalement montrent que la vapoteuse est de toute façon moins dangereuse que la fumée de cigarette. Voilà, déjà ce qu'on peut dire. Selon les régions du monde, on va être plus ou moins... parce que pour moi, il n'est pas validé en France. C'est-à-dire qu'un un professionnel de santé qui vous propose d'arrêter, enfin, qui vous accompagne dans l'arrêt du tabac, va pas vous proposer la vapoteuse. Par contre, il y a des pays comme en Grande-Bretagne, où ils sont un peu plus vapoteuses que nous, les professionnels de santé. Donc voilà. On a, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a eu en plus un document de la, du Haut Comité de Santé Publique qui dit qu'il faut rester prudent. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que la vapoteuse peut être pour certains, un moyen plutôt efficace. Et vous, peut-être que autour de vous, vous avez des personnes qui ont témoigné dans ce sens, pour aller vers une diminution puis un arrêt du tabac. Donc à partir du moment où cette vapoteuse vous a permis d'arrêter de fumer, on peut considérer que c'est, voilà, c'est toujours intéressant à pourquoi pas expérimenter. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon aux vapoteuses. Vous avez des personnes qui ont du mal, donc ne pas hésiter à bien se faire conseiller, à prendre des produits validés avec la norme AFNOR, etc. Mais la vapoteuse contient beaucoup moins, même si ça contient des produits entre guillemets chimiques, et semble-t-il beaucoup moins dangereuse, voire voilà. Mais le recul reste un petit peu limité puisqu'il est d'une dizaine d'années.
D'accord, merci. Et vous, aviez-vous déjà fumé?
Moi, oui. Oui, oui, j'aimais bien ça. Hein. J'étais un petit peu dépendante quand même. Mais je suis très, très contente d'avoir réussi à arrêter. Et dans le petit reportage là que vous avez fait au début, quelqu'un a parlé de liberté. Et c'est vrai que j'ai un sentiment de liberté depuis l'arrêt qui est quand même très important.
Laurence a tout à fait raison d'insister sur le mot de liberté. Qu'est-ce que c'est terrible d'être dépendant de quelque chose, quel qu'il soit. Je crois que le mot liberté, il a un sens tellement fort dans le monde entier, que d'être libre par rapport au tabac et de pouvoir arrêter pour se sentir plus libre de cette dépendance au tabac, c'est vraiment énorme. Donc moi, pour répondre à votre question, bien évidemment, pour la petite histoire, dans les années 70-80, dans les hôpitaux, hein, quand vous faisiez des études de médecine, moi je pense toujours au service des urgences de Nantes, qui était un lieu de pause, c'était le plafond était jaune, et tout le monde fumait, médecins, infirmières, tout le monde fumait, c'était une époque où tout le monde fumait, bon, on va pas revenir en arrière, mais vous pouvez pas imaginer, vous regardez des films, je sais pas si vous regardez des films des années 70 où tout le monde fume, et alors là on fumait beaucoup, et donc dans les hôpitaux aussi, et moi j'ai fumé, en fait c'est à la naissance de mon premier garçon. En termes de modèle, et puis en tant que médecin, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir une sorte d'image, de modèle, de pas sentir trop la cigarette. Donc ça peut être, j'avais pas une dépendance par contre. Moi, je fumais vraiment de façon dans les soirées, dans les fêtes, voilà, parce que j'aimais bien faire la fête, parce que j'aime toujours faire la fête, mais sans tabac.
D'accord. Bah, merci beaucoup Laurence Biotto et Philippe Moine d'être venus y répondre à nos questions.
Merci à vous.
Ouais, bah merci à vous et merci de votre accueil.
Maintenant, on va laisser place à Lassina et Salif qui vont vous présenter un sport de combat. Mais tout de suite, Zao de Zagazin avec un aspiration.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. C'est sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence. Pour de l'inspiration, je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
Ah.
Il est l'heure d'écouter la tribu.
De retour dans la tribu, c'est que ça s'enchaîne très très vite, mais on est prêt, on est presque prêt.
C'est le direct,
les aléas du direct, comme on dit. Allez, c'est parti, les gars, je vous laisse la parole.
Avec plus de 60 000 licenciés en France, la boxe est un sport de combat pratiqué depuis le 18e siècle. Ce sport est apparu en Angleterre. Il est tout d'abord pratiqué de manière clandestine.
Aujourd'hui, c'est un sport connu mondialement, mais c'est pas une manière de boxe, bosquer.
On parle de MMA, boxe thaï, boxe anglaise, française, américaine, chinoise, ou parfois tous les coups sont permis.
Pour en savoir plus, nous laissons la parole à Youssouf, un jeune lycéen du lycée André Bouloche qui pratique la boxe au boxing nazarien.
Bonjour à tous, bienvenue chez Radio Lab. Aujourd'hui, on est avec un boxeur amateur.
Pouvez-vous petit te présenter?
Alors, bonjour à tous. Déjà, moi, c'est Youssouf Biba. J'ai 18 ans. Je suis au lycée André Bouloche à Saint-Nazaire. Et je fais de la boxe depuis 2 ans et demi.
Et du coup, j'aimerais savoir combien d'entraînements tu as par semaine.
Alors, moi, par semaine, j'ai 5 entraînements de boxe. À la salle de boxe et 2 entraînements que je fais moi-même le week-end à la salle de muscu, renforcement musculaire et courir pour travailler le cardio.
Ah, du coup, tu t'entraînes toute la semaine alors?
Exactement, 7 jours sur 7, sans repos. Oui.
Mais comment tu arrives à gérer tout ton emploi du temps là?
Quand j'ai des grosses compétitions, je pars courir avant de venir en cours. Ensuite, je fais toute la journée en cours et le soir, 18h-20h, je fais entraînement de boxe.
Ouais,
c'est fatigant, mais quand on a des objectifs, faut aller les atteindre.
Faut pas lâcher.
Exactement.
Et qui t'a envie de faire de la boxe en fait?
En vrai, je regardais sur Instagram ou sur TikTok, je regardais des vidéos, je voyais des combats de boxe et tout ça. Gervonta Davis, comme vous connaissez, Mike Tyson, tout le Mohamed Ali, les grands boxeurs.
Francis,
je regardais, ouais, tout ça. Je regardais, ça me plaisait. J'ai dit, je suis allé, c'était à Savenay. Je suis allé voir, c'était dans un salon où il y avait tous les sports. Ah oui. Il y avait la boxe, je suis allé voir. Je me suis renseigné, j'ai fait des essais, ça m'a plu. Et j'ai continué dedans.
Et du coup, quelles sont tes ambitions dans ce sport?
Mes ambitions dans le sport, c'est dans la boxe. C'est aller chercher tous les ceintures, tous les titres possibles en France et à l'international aussi.
On vous le souhaite vraiment.
Merci beaucoup.
Et du coup, je sais pas, vu qu'on y est, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos points forts et de vos points faibles? Même si c'est vrai, ça peut être avantageux pour des adversaires, mais ouais, on aimerait savoir un peu plus.
Moi déjà, je suis dans la catégorie des 63,5 kg. C'est-à-dire, j'ai un petit avantage, c'est que je suis un peu grand dans cette catégorie. Et j'ai une grande allonge et je bouge beaucoup. Donc mes adversaires, ils n'arrivent pas trop à me toucher parce que j'esquive beaucoup, je bouge tout le temps. Et point faible, peut-être travailler encore un peu plus la puissance dans mes coups et la précision, c'est ça.
Combien de combats tu fais?
Alors j'ai 27 combats. J'ai fait mon 27e combat, je l'ai fait samedi dernier là, au Mans, et j'ai gagné.
Ok, c'est quoi le bilan de ces combats? Si on peut avoir un bilan global.
Déjà depuis le début de la saison, depuis cette année là, depuis la saison, j'ai 7 combats et 6 victoires et un match nul. Donc pour cette année, c'est un bon bilan. Voilà, merci.
Mais depuis quel âge tu fais de la boxe?
Depuis 16 ans. Depuis 16 ans, j'ai 18 ans, ça fait 2 ans et demi bientôt.
As-tu déjà participé à des tournois?
Oui, j'ai fait des tournois. Et le plus important, c'était la ceinture Viking. C'était en junior, j'avais 17 ans. C'était la première fois que je faisais une grande compétition comme ça. Et j'ai réussi à remporter la ceinture. Et c'était le principal.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Et du coup, t'as encore des souvenirs de comment s'est passé ton premier combat?
Alors, ouais. Des souvenirs de mon premier combat. Déjà, j'avais pas dormi de la nuit parce que je pensais que au combat.
Le stress.
Je disais au coach, oui, je suis prêt, trouve-moi un combat. Et lui m'a dit, t'es sûr, t'es prêt? Je dis, oui, je suis sûr. Il me trouve mon combat. toute la nuit je dors pas à cause du stress. J'arrive, je fais la pesée, je stresse encore, je cherche l'adversaire, il est où pour le trouver. Je trouvais pas, je fais mon combat, je suis bloqué, j'arrivais pas à donner des coups. Lui il était grave à l'aise. Je perds mon premier combat et là en fait ça m'a motivé encore plus parce que ça ouvre et ça permet de gérer encore ensuite un peu mieux le stress.
À battre les gens pour vivre.
C'est ça.
Mais ouais, en même temps c'est bien. Vraiment félicitations parce que je pense qu'il y a tout le monde qui a passé par là.
Oui, la
première fois c'est pas toujours facile.
C'est ça.
Et sinon tu peux nous décrire ton coach en quelques mots.
Alors bah mon coach c'est Stéphane Cazot, mon coach principal. Je suis tout le temps avec lui, je m'entraîne toujours avec lui. C'est quelqu'un de super important pour moi parce qu'il me suit partout. Il me fait combattre dans des compétitions partout dans la France. Alors que il y a pas beaucoup de coachs qui font ça. Et voilà, je le remercie beaucoup.
Ben vraiment, on le remercie aussi.
Que peux-tu dire aux gens qui veulent débuter dans la boxe?
Alors, pour débuter dans la boxe, en fait, c'est simple, mais en même temps pas assez simple dans le sens où faut avoir une bonne mentale pour faire la boxe. Parce que si on n'a pas le mental, bah, on peut pas réussir. Si t'arrives et tu dis, ouais, j'ai peur, lui, là-bas, il va me frapper trop fort. Ouais, lui, non, il est trop fort. Bah, tu peux pas avancer, en fait. Tu viens dans la boxe, tu essayes. Même si tu vas le prendre des coups, tu vas en mettre aussi. Ça
et
veut dire,
maintenant, nous allons accueillir.
Faut que tu sois fort, en fait, dans le mental.
Dans le mental, bah oui.
Ouais.
Ah, vraiment, félicitations et merci beaucoup à vous.
Merci à vous de m'avoir invité.
On te souhaite de réussir à tes projets, en fait.
Merci beaucoup. Merci.
Et maintenant, nous allons accueillir M. Badré Beladja. Bonjour à vous.
Salut. Bonjour.
Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Ok, bah, je vais me présenter. Tout d'abord, je remercie déjà votre projet pour valoriser les sportifs, je crois aussi, les sportifs d'autres personnes aussi,
merci,
pour sensibiliser des problématiques aussi qui touchent les jeunes. Je pense avant moi il y avait la cigarette, c'est ça, c'est clair, oui. La fume. Et après j'ai écouté des boxeurs que je connais comme Youssouf Biba qui présentait bien le club et je le félicite et je félicite aussi le journaliste, on va dire le reporter. Votre prénom?
Moi c'est Bino.
Bah tu as assuré Bino. Voilà, moi en tout cas j'étais un boxeur professionnel. Avant d'être professionnel j'étais amateur boxe élite au Maroc, où j'ai fait une carrière en pied-point, kickboxing, boxe thaï, muay thaï. Après, je suis passé en anglaise. J'ai fait une dizaine d'années, voire plus, une quinzaine d'années de sport de combat. Et je suis arrivé en France en tant que boxeur professionnel. Mon contrat était avec le boxing. Et j'ai fait plusieurs années en boxant. Et j'ai vécu avec la boxe. Après, je me suis reconverti vers autre chose, dans l'animation, dans le management, etc.
Alors vraiment c'est bien ça et on vous remercie aussi d'être venu.
Ça fait plaisir. Dès que j'ai écouté que c'est des jeunes qui mettent le projet en place, bah d'ailleurs on dit pas non. Hein. Si on a le temps, on vient, même si on n'a pas le temps, on s'organise pour vous parce que c'est ça fait plaisir.
Alors vraiment merci beaucoup, c'est gentil.
Est-ce que vous travaillez quand vous étiez sportif?
Non, au début, en fait, avant d'arriver en France, j'étais étudiant. J'étais étudiant en même temps, sportif, plus ou moins de haut niveau, parce qu'on a le haut niveau, mais on n'a pas un statut réel au Maroc encore. Mais j'étudiais en droit, j'ai fait 2 années de droit en français, bah, 3 années, et je fais aussi sport-études. Mais j'étais têtu, j'écoutais pas les anciens, les adultes, même les parents. Je voulais être que boxeur et je l'ai payé à un moment donné, mais j'ai rattrapé tout. À l'âge de 35 ans, j'ai repris mes études. Effectivement, j'étais étudiant pour garder le statut d'étudiant, mais j'étais plutôt boxeur.
Ah, okay.
C'est pas facile.
Et on aimerait savoir, en ce moment-là, c'était vraiment difficile, mais on aimerait savoir comment vous gérez votre vie professionnelle et les entraînements.
La gestion, ça dépend en fait. Je gérais pas. J'adaptais mon envie d'être boxeur aux études. J'étais bien aux études. Franchement, j'ai eu mon bac. En même temps, j'étais champion de Maroc. On n'était pas nombreux qui étaient sélectionnés pour faire le droit en français à l'époque, tout en ayant sportif de haut niveau. La gestion, elle est naturelle. Tu fais le sport dans la journée, le soir, et dans la journée, tu fais tes études. Mais moi, personnellement, j'étais plutôt penché vers le sport. Vers le sport. C'est chose que je conseille pas, les gars. Il faut faire les deux à la fois parce que un sport de combat comme la boxe, si on se blesse et on n'a pas de diplôme, on n'a pas de métier, on se trouve vraiment dans une situation qui est très, très pénible. C'est pour ça que la chance qu'on a en France en ce moment, mais vous, les jeunes surtout, c'est que vous avez la possibilité d'être des champions en même temps avoir des études supérieures. Et il y a des allègements pour les jeunes comme vous, un BPJEPS, un DEJEPS, par la suite un DES. Tout ça, ça aide les jeunes à rester bien dans les études en même temps sportif de haut niveau. Mais c'est risqué, attention, le sport seul, c'est toujours risqué.
Ok. Et du coup, vous nous avez parlé de boxe, vous nous avez cité plusieurs types de boxe que
ouais,
vous aviez
effectivement.
Fait. Et vous nous avez dit que vous avez une carrière. Et du coup, on aimerait savoir, vous avez une cette... Parce que on a eu à faire quelques recherches aussi et on a vu que vous étiez champion du monde.
Boxe thaï.
Et du coup, on aimerait savoir, c'est quoi la différence entre la boxe thaï et les autres types de boxe?
La différence entre le pied-point et l'anglaise, c'est que les points. Et le pied-point comme kickboxing, boxe thaï ou full contact, boxe américain, karaté, tout ça, c'est avec les deux, les poings et les pieds. Mais pour moi, le plus compliqué, c'était l'anglaise. Ça reste toujours l'anglaise. Même le MMA n'égalera pas niveau difficulté l'anglaise. Parce que l'anglaise, t'as que tes poings. Du coup, quand t'es fatigué et t'as que tes poings, tu perds. Par contre, en kickboxing, en MMA, tu peux faire la lutte, tu peux t'accrocher. En anglais, tu peux pas. Du coup, soit t'es bon, tu apprends du raclé. C'est okay, ça la différence entre les. C'est pour ça on dit noble art parce que ça reste toujours la boxe. On a cru au début que les MMA va le rivaliser ou prendre beaucoup de place. Finalement, les grands champions en anglais restent toujours les plus payés, les plus grands boxeurs, quoi. Et c'est très, très la promotion en Amérique, c'est toujours présente à ce niveau-là.
Ok, vraiment, ici.
Mais les MMA aussi, dites-moi.
Oui. Et c'est quoi, quel est votre palmarès?
Palmarès, j'ai fait, comme tous les jeunes, j'étais champion de karaté au début, ce qui m'a appris la discipline, la rigueur, respecter les entraîneurs, la salle, c'est ça ce qu'on ne voit pas souvent dans notre discipline. En tout cas, le karaté m'a permis d'apprendre un peu beaucoup de principes, des valeurs sûres. J'étais champion junior et j'étais champion open, toute catégorie en junior. Après, j'étais plusieurs fois champion de Maroc en full contact, champion de Maroc en kickboxing. Après, j'étais médaillé au podium, j'ai fait des podiums internationaux en Yougoslavie, en Italie, en Espagne. Trois fois médaillé au championnat du monde en tout cas. Après, j'ai fait, quand je suis passé en anglaise, parce que c'est un sport olympique, et que le pied-point, c'est pas un sport olympique, j'ai fait l'anglaise, le noble art. J'ai fait 24 combats. Au Maroc, 20 combats, 19 victoires. Et au niveau international, 24 combats pro, 20 victoires en professionnel.
Ah, vraiment, félicitations.
Merci, les gars.
Et on aimerait savoir à quel âge vous avez commencé la boxe?
Un peu tard, j'ai commencé par la course à pied parce qu'on était, quand on est à l'école, ils nous font des petites courses, le cross plutôt. Et comme par hasard, je me trouvais chaque fois deuxième, troisième, parfois premier, sans forcer. Du coup, j'étais repéré par l'équipe régionale. Mais quand j'ai vu les champions à l'époque, comme Saïda Ouita et d'autres champions africains, je me rappelle plus quel pays, qui n'est peut-être Éthiopie plutôt. Je vois tous étaient tous maigres. Je me dis non, tu vois le quartier et tout, être trop maigre devant tout le monde, mais c'était la jeunesse. Ça m'intéresse pas ce sport-là. Après j'ai vu les champions comme Rocky, comme Van Damme, comme les autres champions. C'est ça qui m'a poussé un petit peu à faire un sport de combat où je peux être plus imposé et respecté dans le quartier. C'était au début. Et voilà, j'ai commencé à 15 ans le karaté, 15-16 ans le karaté, un peu beaucoup de retard par rapport à d'autres champions. Comme. En tout cas, comme Driss qui m'accompagne aujourd'hui, Driss, il a commencé les champions d'Afrique, il a commencé à l'âge de 8 ans. C'est très différent. Du coup, lui, le sport pour lui, c'est très très facile. La compétition au niveau émotionnel, physique, technique, il a pas peur de ring parce qu'il a connu ring à l'âge de 8 ans. Oui. C'est différent. Et quand tu commences tard, t'appréhendes plus le ring qu'un jeune comme Driss qui est, d'ailleurs, je le remercie avec moi aujourd'hui, Driss. Ah, t'es content, Driss, hein? Oui. Et bah, Driss, il est champion d'Afrique deux fois, hein. Ah, ouais. Champion de Maroc plusieurs fois. Il a 70 combats, on va dire. En France, il a fait 3 combats, 3 victoires. Ah, c'est pas l'invité, mais ça lui fait plaisir. Il est comme vous, hein. Il découvre et tout, hein.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la boxe parmi autant d'autres sports?
D'accord. C'est quoi ton prénom, excuse-moi?
Salif.
Salif, ok, Salif. Ce qui m'a fait choisir, j'étais comme vous, tu vois, la jeunesse, on a des idoles, que des sportifs, je sais pas, vous étiez footballeur peut-être, mais nous, c'était Rocky Balboa, c'était Van Damme, c'était... En plus, dans les quartiers populaires, il y a toujours cette concurrence, cette rivalité, ce physique-là qui doit être présent pour que tu te fais respecter. Mais bon, c'est pas que ça. Mais c'est ça qui m'a poussé au début. Je vais m'imposer, je voulais me faire respecter au début. Et finalement, le côté sportif a pris plus de place et je suis devenu champion au bout de 1 an ou 2 ans de pratique.
Ah, ok, pas de problème. Et du coup, j'aimerais savoir quel est votre plus grand regret dans votre carrière?
Regret?
Et si vous en avez?
J'aime pas dire des regrets parce que je fais confiance au destin, je fais confiance, je prends les choses comme ils sont. Tant que tu fais ton travail bien, tu fais les choses bien, je pense que les regrets, ça fait que ça reste toujours, ça reste dans, c'est frustrant dans la vie. Moi, peut-être mon regret, c'est que j'ai arrêté un peu vite. J'aurais dû continuer peut-être 2-3 ans. Mais c'est compliqué de continuer avec des blessures, avec un avenir un peu n'est pas clair. On veut gagner notre vie, mais il y a pas beaucoup d'argent en France. Du coup, j'ai fait très très vite de faire le choix d'aller vers la formation et reprendre mes études. Mais les regrets, on a beaucoup, mais on relativise. Hein.
Ah ok. Quel est votre plus beau combat et pourquoi?
Plus beau combat. Ouais. Ah, j'en ai fait des combats, le plus beau combat. Ah ouais, c'était mon championnat du monde à Saint-Nazaire à la soucoupe. En boxe thaï, c'est pas en anglaise. Je l'ai fait en boxe thaï. C'est pas le combat elle-même qui était belle. C'était le public qui était présent, les amis, la famille, même s'ils sont un peu loin. Mes coachs étaient présents avec moi, même s'ils venaient de la boxe anglaise, ils étaient présents. Je pense que le combat était plutôt symbolique que la victoire elle-même. Ça, c'est parmi les choses que j'ai vécues les plus beaux. En France. Après, le plus beau combat, c'est réussir sa vie, surtout. Enfin, réussir ce qu'on veut dans la vie. Maintenant, je suis formateur, je suis content, je forme des jeunes en BP, en DEGEPS. Je suis indépendant, j'ai mes entreprises, je fais de la promotion, du visuel. Je fais de prestataire dans des structures associatives. C'est ça le plus beau combat de ma vie. Pas le combat de boxe parce que la boxe, elle dure pas.
Okay. Merci. Parlons de boxe, on voulait...
Ah, vous avez des questions, les gars, ça fait plaisir.
on voulait savoir quel a été votre combat le plus rapide.
En fait, le plus rapide, c'était à Saint-Nazaire. J'ai boxé pour quart finale de la Coupe de France. J'ai gagné au moins 1 minute 30 à peu près. Avec un bras arrière droite. C'est passé à Eurosport. Et les journalistes sont venus me voir, ils étaient dégoûtés. Ils m'ont dit, ouais, mais... C'est pas pour frimer, attention. C'était comme ça. Soit t'as le pain, soit ça dépend. Il y en a qui ont l'endurance. Il y en a qui ont la frappe. Et ben, j'ai gagné 3-4 combats rapidement. Et sont venus me voir, me dit, bah, alors, t'as gagné un match rapidement. J'ai dit, tant mieux. Mais pas pour créer une polémique. Ils étaient déçus, les journalistes. Ils m'ont pas fait un article parce qu'ils croyaient que j'étais prétentieux. Mais non, c'était comme ça.
Alors vraiment, félicitations.
Merci, les gars.
Quel boxeur à vous a le plus inspiré? Pourquoi?
Le boxeur qui m'a le plus inspiré, il y a plusieurs boxeurs qui nous inspirent dans notre carrière, ça dépend de notre âge, ça dépend de notre performance. Moi, parmi les plus grands boxeurs, Oscar De La Hoya par exemple, Félix Trinidad, Mike Tyson, beaucoup Mike Tyson. Oui, voilà, son parcours était très inspirant. Et plein d'autres boxeurs, mais c'est vrai que Tyson aussi m'a beaucoup inspiré, sa rage de vaincre, détermination, son parcours aussi qui n'était pas facile au début, il a réussi à finir bien sa vie quand même, par rapport à ses amis qui ont, il n'y a pas eu beaucoup de potes à lui, mais à travers sa sagesse par le temps, avec le temps, Tyson a su s'en sortir quand même.
Okay. Et comment vous êtes passé de boxeur à entraîneur? On aimerait savoir si vous y pensez avant.
Je pensais pas avant d'être coach, mais je pense que c'est un naturel le passage entre entraîneur et entre boxeur et entraîneur. On est deux un petit peu. En fait, les sports-études m'ont déjà permis d'avoir quelques bases sur les fondamentaux de l'enseignement de la discipline. Mais à force de rencontrer les jeunes, à transmettre et tout, on est amené vers être coach. Après, c'est pas gagné d'avance parce que on peut être champion, mais on peut être un mauvais pédagogue. Oui. Les plus grands champions sont pas des, les plus grands entraîneurs n'étaient pas des champions. Maintenant, quand t'as la pédagogie, t'as l'expérience, je pense que ce que j'ai jusqu'à maintenant, ça m'a permis un petit peu d'avoir cette facilité de faire le passage, d'être entraîneur ou encadrant.
D'accord. Et comment gérer et on me sent en fait dans les box.
Gérer l'émotion.
Ouais.
Eh ben, c'est le plus dur, Adris, hein. C'est le plus dur, l'émotion, le stress et tout, comment gérer ça. Toi, comment tu le gères, Adris?
Juste concentration, c'est sûr.
Voilà, c'est pareil. Voilà. Pourquoi je pose la question à Adris? Parce que c'est le plus jeune et qui boxe toujours. Il a plus maintenant les vraies sensations du stress comme moi actuellement. Adris, son père était mon coach il y a 20 ans maintenant. Et la vie a voulu que je le rende, qu'il vienne à Saint-Nazaire et que je l'accompagne comme entraîneur à Saint-Nazaire avec le boxing nazarien.
Ah, vraiment, Yves, dans ce cas, on te souhaite tout le bonheur aussi, comme ton coach et bien plus.
Et ben, le stress, comment on le gère? Maintenant, là, maintenant, grâce à la science, grâce à des psychologues, grâce à la recherche, il existe différentes méthodes pour gérer son stress. Avant, il nous laissait seuls. En train de stresser, soit on a peur, et ça c'est compliqué quand t'as peur, tu fais pas la boxe et à un moment donné tu vas craquer, soit on a peur de la défaite, perdre son entourage, être ridicule devant le public, se faire humilier, tout ça, ça travaille. Et un sportif de haut niveau, il stresse de tout de l'ensemble, de perdre son autorité, de perdre l'argent, de perdre le public. On a tous peur de la défaite. Mais la gestion, ça se passe avec des étapes. Déjà à l'entraînement, on te met dans une situation de combat. Tu fais plusieurs combats tests avec des boxeurs que tu connais pas. Du coup, ça te fait déjà une posture de gérer tes émotions. L'entraîneur, il te parle tout le temps. Il relativise. Tu vas devenir champion. Si tu perds, c'est pas grave. Par exemple, tu penses que positif. Il existe différentes choses qui t'amènent par la suite à gérer ton stress. Mais avant, on gérait pas. Tellement je stressais parce que je boxais tous les 40 jours. Je voyais mes combats, je me reconnais pas. Je dis, puisque c'est comme ça, il y a en moi quelqu'un qui boxe, hein, le guerrier qui est en moi, et le badre, le papa, le gentil, tout. Ben, chaque fois que je vais au vestiaire, 15 minutes avant, je reste normal, badre, le normal. Pour moi, c'est ma méthode. Et dès le combat approche, je dis, je fais confiance à l'autre monstre qui est en moi. Et comme ça, j'ai pas le poids du combat. Ouais, ouais. Et sur le ring, je me reconnais pas, je me reconnais pas, même le public ne me reconnaît pas. C'est comme ça, ma méthode de stress. C'est un peu, je vais pas dire, hein, c'est gros le mot lâche, mais c'est un peu dire, oh, tu fais comment ça l'autre, mais c'est que moi, c'est un peu, voilà, c'est comme ça que je gère mon stress. Après, la vraie gestion, c'est que tu donnes des objectifs. Je vais arracher ma victoire. C'est un sport de position, c'est un sport de combat où tu cherches ta victoire. Tu te caches pas derrière un collègue ou quelqu'un. Mais les derniers combats de Driss, le dernier combat de Driss, c'était au Sable d'Olonne. J'ai vu la transformation. Mais la chance qu'il a, lui, c'est qu'il a boxé jeune à 8 ans. Mais quand tu boxes jeune, t'as l'habitude des confrontations. Il stressait pas, il était là.
Tu t'habitues vite, ouais, déjà.
Youssouf, pareil, il stressait pas, il s'amusait et tout. Mais c'est leur façon de gérer le stress. Quand tu tombes comme quelqu'un, comme Tyson et Dot, mon pote, là, tu vas stresser, là.
Okay. Et du coup, on avait une dernière question. Comment préparer un bon combat?
Eh ben, c'est les facteurs de la performance sont différents. T'as l'aspect physique, déjà, tu prépares ton corps. Plusieurs semaines pour qu'ils soient prêts à assumer le stress de l'entraînement, l'intensité, le volume. T'as l'aspect technique, tu dois gérer ta technique, ça dépend de l'adversaire que tu vas affronter, est-ce que c'est une technique offensive ou défensive. T'as l'aspect stratégique, est-ce que tu vas, comment travailler la stratégie avec le partenaire. T'as l'aspect physiologique, la vitesse, la résistance, la force. T'as l'aspect mental, où tu travailles sur les sparring pour tester ton mental. T'as l'aspect souplesse, coordination. Et on fait des cycles, on fait un cycle général. On travaille l'ensemble du physique du corps, un cycle auxiliaire entre les deux. On travaille que en fait spécifique, on travaille qu'à la salle. Et la dernière semaine, on pense à rien. on fait que des spécifiques. Voilà globalement comment on fait. C'est clair, un petit peu plus ou moins général, spécifique et l'affûtage. Oui, c'est comme le foot en fait. Hein.
Ok, vraiment, on vous remercie beaucoup d'être venu.
Merci et à vous les
merci
gars.
Merci beaucoup à Idriss aussi.
Et on est content d'être parmi vous les gars. Redites-moi vos prénoms beaucoup. Que je sache.
Lassina.
Salif.
Lassina, Salif qui m'ont fait l'interview. Merci à vous les gars.
Merci à vous.
C'est Binour.
Binour qui interviewe Issouf.
Eloué.
Merci à vous tous. Merci à la tribu aussi. Beaucoup. Et à votre prof qui nous a invités, qui a fait confiance à, à nous pour pouvoir parler avec vous.
Et oui, merci. Puis on se retrouve dans un instant avec Binour et Eloué qui vont nous parler musique. Et justement, ils vont nous parler de Guy de Besbar. Et on écoute tout de suite un morceau.
Le sommet, je vais toujours vers l'avant. J'agrandis le dressing, c'est plus pareil qu'avant. Les potes font toujours du fric, même au ballon. T'es toujours au bourbon, tu crois que t'as le ballon. J'ai pas bougé, que les sacs d'oseille qu'on déplace. Faut que je m'installe pour de bon, on pas faut me faire un boulot comme tabac. C'est rempli de moteurs, je suis capace. Je sais que tu vas porter plainte au fond. Mais ça n'empêche que devant tout le monde, on t'éclate. Bouddha barre posé vers le fond. SUV, voiturier, les viteurs nous flattent. Bien entouré, qui je qui touche le plafond. Crois pas qu'on vient de faire le dernier des plafonds. Pour nous, c'est la routine, demande à tes gravons. Trouve-moi élevé comme un Barbès. Tous les jours actif, je prends les mains à baisse. Artiste et interprète. L'avenir appartient à ceux qui s'empêtent. Trouve-moi élevé comme un Barbès. Tous les jours actif, je prends les mains à baisse. Artiste et interprète. L'avenir appartient à ceux qui s'empêtent. Plus rien à dire, je fais que chapeauter. Je continue toujours de les saboter. C'est souvent qui je coule leur harlequin. Couleur arc-en-ciel, ça pète sans trop papoter. Il faut du lourd, plus de caisse et 25 packs. C'est tout de suite la retraite ou perpète. On s'apprête dans tous les cas. Et j'ai dit si moi je marche. Je suis jamais déçu, c'est rare que je m'attache. Je suis moins rempli d'hypocrite. Tu peux garder ta main, tu peux niquer ta hache. Veulent passer devant nous, c'est malade. Déjà que les c'est pas logique que je fasse le barrage. Trouve-moi élevé comme un Barbès. Tous les jours actif, je prends les mains à baisse. Audi, artiste et interprète. L'avenir appartient à ceux qui s'empêtent. Trouve-moi élevé comme un Barbès. Tous les jours actif, je prends les mains à baisse. Audi, artiste et interprète. L'avenir appartient à ceux qui s'empêtent. L'avenir appartient à ceux qui s'empêtent. L'avenir appartient à ceux qui s'empêtent.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Okay.
Radio Lab.
La radio.
La radio du lycée André Bouloche.
Oh, oh. C'est bon là?
Du lycée André
La radio Bouloche. Du lycée André Bouloche.
Radio du lycée André Bouloche.
En direct. En direct.
En direct de Radio Tribu.
De retour dans Radio Lab, je vais laisser la parole à Eloï et Binou. Les gars, il est temps pour nous de parler musique, c'est bien ça, Eloï?
Ouais.
Ouais. Eh ben écoutez, à vous l'antenne, comme on dit.
Allez.
Maintenant, on va vous parler d'un jeune rappeur de 26 ans, Guy de Besbar.
Et qui est-il, Binour?
Guy de Besbar est un rappeur français, originaire de Paris, qui s'est fait connaître grâce à ses freestyles et ses morceaux engagés.
Et quels sont ses thèmes de ses chansons?
Ses textes abordent souvent des thèmes tels que la rue, la vie quotidienne et les difficultés rencontrées.
Et il a de l'actu?
Eh oui, il vient de sortir un nouvel album Ambition de 23 titres, le 17 novembre 2023. Il a fait appel à SDM pour le morceau 10 mois. Il parle de réussite, de confiance et de désir, reconnaissance. En voici un extrait.
Donne-moi ton adresse, je t'emmène loin. Et sans tabou, tu mérites mieux que ces mythos qui s'inventent des vies de voyous.
Dis-moi, mon bébé, si tu penses à moi, je t'envoie virement, prends ça comme un 22 carats, donne-moi ta main.
Dis-moi, j'ai pas l'air de parler chinois, je te rassure avec Akana, je veux tout de suite.
Et puis, il y a le morceau en hibou où on reconnaît la voix de Kobolade.
Elle est boue, on est à tour, elle nous fait la petite boue, ça m'intéresse pas du tout. Elle est boue, c'est nous la boue.
Ce morceau parle de fête et de vivre la vie à fond.
Mais comment il s'est fait-il connaître?
Eh bien, il a gagné la popularité au sein de la scène rap francophone grâce à son freestyle authentique et ses paroles percutantes.
Qu'est-ce qui te plaît chez lui, Binour?
Eh bien, j'aime beaucoup sa façon de rapper. ce qu'il nous transmet à travers ses sons.
Et où pouvons-nous le voir en concert ?
Il était au Zénith de Nantes le 15 février et on peut le retrouver le 29 février au Zénith de Paris.
Maintenant, tout de suite, un dernier morceau de Guy de Besbar, élevé comme un Barbès.
Eh ben, on l'a déjà écouté, du coup, on a un peu, tout switché dans l'émission, comme on a pris du temps, on va pas le réécouter. Vous pouvez le réécouter, par contre, sur le site de la radio, quand cette émission va être mise en podcast, donc très bientôt. Voilà, messieurs, c'est la fin de votre toute première émission. Enfin, quasiment, parce que j'ai 2-3 questions pour vous. Ça va ? Ça s'est bien passé, cette première émission ?
Franchement, ouais.
Ouais. Vous êtes contents ?
Oui. Ouais.
Bon, alors, comme là, vous la jouez un peu timide, alors que maintenant, je sais que vous ne l'êtes pas. Vous posez des... Mokhtar, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans cette émission ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de compliqué dans la préparation, direct ?
Non, y a rien.
Il n'y a rien eu de compliqué ?
Non.
Tout s'est bien passé ?
Ça va. Mais le début, j'étais un peu triste, mais après, ça va.
Un peu stressé ?
Oui, un peu stressé, ouais.
Et puis, une fois que c'était parti ?
Après, ça va.
Ça va.
Ouais. Parce qu'en fait, c'était première fois, genre...
Ouais. Mais comme beaucoup de premières fois, ça fait peur, hein.
Ouais, ça fait peur.
Voilà. Et puis, finalement, t'es fait pour la radio ?
Oui, c'est bon.
T'en referas ? T'aimerais en refaire ?
Je sais pas.
Tu sais pas quand même. Ok. Ouais. Binour, toi, comment ça s'est passé ?
Franchement, je me suis senti à l'aise en fait.
Bah, finalement, très à l'aise même.
Oui.
Ouais. Pas de stress au début d'émission ?
Non, ça va.
Non. Et alors toi, dans tout le projet, parce que là, vous, auditeurs, vous écoutez l'aboutissement du projet, mais les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils travaillent sur cette émission déjà depuis quelques mois. Hein. On s'est rencontrés la première fois, ça devait être en octobre, il me semble. Donc, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi dans ce projet ?
Franchement, trouver les questions, quoi.
Ouais, la préparation.
Mais moi, je dirais plus la préparation, c'est un peu ce qui a été un peu compliqué.
Oui, le fait de préparer l'émission, c'est pas la phase la plus sympa, faut le dire aussi. Hein.
Et surtout que ça nous a pris beaucoup de temps et on devait chercher tout ça. Mais vraiment, finalement, je suis vraiment content du rendu.
Ouais, finalement, ça vaut le coup. Hein.
Ouais.
Les gars, vous, qu'est-ce qui vous a le plus plu, Luca ? Non, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus compliqué à faire pour réaliser l'émission ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ?
Nous, c'était pas trop compliqué pour nous, mais enfin, plus pour les profs de se dépêcher et soit prêt pour l'émission.
Ok, donc finalement, peut-être pour vous aussi, finalement le timing quand même, réussir à gérer le timing. Et Louis, toi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué ?
Trouver de l'inspiration un peu.
Ouais.
Ouais.
Ah, le syndrome de la page blanche.
Ouais, voilà.
Et toi, Salif ?
C'était un peu compliqué, mais ça va, on a géré.
Un peu compliqué au début, un peu comme Mokhtar, un peu stressé au départ ?
Oui, on peut dire comme ça, mais ça va, on a géré.
Ok, en même temps, moi je vous ai vu arriver, et là je vais vous voir bientôt repartir. Je vous sens plus détendu que quand vous êtes arrivé il y a 2 heures.
Ouais.
On est d'accord ?
Oui, on est bien d'accord.
Ok, si on vous propose un jour de faire de la radio, est-ce que vous y allez ou pas ?
Mais moi, volonté.
Ouais, je sens qu'il y en a qui ont des vocations qui viennent de se réveiller. Toi, Luca, tu referais de la radio ?
Oui.
Ouais, ça t'a plu ?
Oui.
Et Louis ?
Ouais, avec plaisir.
Bien sûr, c'est pareil.
Pourquoi pas ?
Bah oui.
Et quand on vous a annoncé, alors là, il va falloir vous remettre, il y a quelques mois, quand vous annoncez en octobre que vous alliez faire une émission de radio, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat ? Est-ce que finalement, vous êtes... par rapport à ce que vous vous attendiez, est-ce que c'est mieux ou moins bien que ce que vous vous étiez imaginé ?
Et déjà, moi, je trouve que c'est mieux parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. Et pour moi, comme je l'ai dit, comme pour presque tout le monde, c'est peut-être la première fois. Et franchement, je ne m'attendais pas à un résultat comme ça. Je suis plutôt satisfait du résultat.
T'es plutôt satisfait. Je crois que t'as de quoi être plutôt satisfait. Toi, Luca ?
Bah oui, on a fait du bon travail et voilà.
Et Louis ? Content de toi ?
Ouais, ça va.
Ouais, ça va. Salif ?
Bah c'est pareil. Je suis fier de tout le monde. On a bien bossé.
Vous avez bien bossé, on est d'accord.
En tout cas, moi j'ai bien aimé.
Eh ben, c'est l'essentiel.
Je suis pareil comme R. On a bien travaillé et c'est tout.
Eh ben, en tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec vous. Merci beaucoup pour les invités que vous aviez invités, parce que c'était très chouette.
On vous remercie aussi.
Bah oui.
Eh ben, c'était un plaisir, messieurs. Et puis, bah, vous aurez plus qu'à réécouter l'émission, hein. On va aussi remercier vos deux professeurs. Je vous laisse le faire.
Oui.
Merci beaucoup à vous, madame.
Et puis, bah, encore merci à vos invités. Et puis, bah, cette émission est terminée. Bah, ça va être à vous de dire au revoir, hein.
Au revoir.
Au revoir.